ils se sont confiés à nous durant la saison 1 du podcast. Tout l'été, ils vont nous envoyer des cartes postales de leur vie aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont heureux? Qu'est-ce que le podcast a changé pour eux? En résumé, alors, ça s'est bien passé? Bonjour Arnaud.
Bonjour Sarah.
Alors, t'as été un des premiers invités du podcast. Et ce que t'es venu nous raconter, c'est que... Enfin, ce qui m'intéressait dans ton histoire, c'est que tu avais été le témoin plus que direct de la vie auprès d'une victime d'un attentat terroriste. Ton frère a été victime de l'attentat de Charlie Hebdo. Il a survécu après d'immenses difficultés et un parcours médical intense et douloureux. Il a écrit un livre qui romançait à peine sa vie. Et dans ce livre, on te voyait partout, t'étais l'invisible le plus présent ou le présent le plus invisible du livre. Et c'est pour ça que j'ai cherché à te contacter, parce que j'ai été immensément curieuse de ta vie, de ce que tu en pensais, de comment tu l'avais vécu. Et c'est ça que tu as eu la générosité de partager avec nous il y a 3 ans maintenant. Mmh. Comment ça va?
Ça va bien. Je poursuis ma vie, ou je continue à construire ma vie, malgré que je sois plus tout à fait jeune, mais je continue à construire ma vie et je prends beaucoup de plaisir dans la vie.
C'est déjà pas mal.
C'est très bien. C'est très bien.
Alors, tu t'es pas un inconnu au-delà des gens qui avaient lu le livre, parce que t'avais une communauté de fidèles déjà sur Twitter. Donc, les gens connaissaient un peu ton nom et ta vie. Est-ce que le podcast, tu as eu des réactions à la suite de la publication du podcast?
J'ai eu un certain nombre de réactions positives, et j'en ai encore. C'est-à-dire qu'il y a encore parfois des gens qui reviennent vers moi, parce que les hasards font qu'ils retombent, notamment par le fait que tu aies démarré cette deuxième série. Les gens éventuellement reviennent en arrière, et il peut y avoir des réactions qui arrivent très tard. Donc évidemment que des réactions positives, voilà. Mais je dirais que les réactions les plus importantes forcément sont celles de mon entourage proche, et notamment celles de mon frère qui je crois a beaucoup apprécié ce que j'avais dit ce jour-là et ce qu'on avait pu partager ensemble.
Je réalise que je crois que je t'avais jamais demandé ou tu m'avais jamais dit comment il avait réagi.
Non, je pense qu'on en avait effectivement jamais parlé, voilà. Parce que tu sais, je dis pas grand-chose en fait, je suis un peu taiseux, donc voilà.
Ça te prouve bien que c'était toi qui m'intéressais et pas lui.
et ça a été, peut-être ce qui a aussi évolué dans ces trois ans, puisque ça fait 3 ans. C'était en décembre 2019 qu'on s'est parlé. Ça a été publié en janvier 2020. C'est le fait d'avoir de sortir, enfin, au travers, en tout cas, de ce que les gens pouvaient connaître de moi. De sortir de ne plus être que le frère d'eux, voilà. Et effectivement le podcast y a contribué, et puis ensuite il y a un certain nombre d'événements qui font que notamment j'ai acquis entre guillemets une légitimité en tant que victime, puisque notamment il y a la notion de victime par ricochet qui a été de plus en plus admise, qui aujourd'hui peut être notamment indemnisé également, hein, par le fonds de garantie des attentats terroristes. Et donc voilà, donc il y a eu un parcours dans la légitimité, et je pense que le podcast en a fait partie.
Ça me fait plaisir. Enfin, j'aurais préféré ne jamais te rencontrer pour ces raisons-là, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de ton engagement justement sur ce sujet?
Alors en fait, lorsque nous nous étions parlé fin 2019, j'avais à peine démarré ma contribution à une association qui s'appelle l'Association française des victimes du terrorisme, l'AFVT. Là encore, c'est le Lambeau qui a fait que j'ai été en contact, puisque au travers du Lambeau, un certain nombre de gens, m'ont connu, et du coup, j'ai été en contact avec des gens de l'AFVT. J'ai commencé par faire par témoigner dans les lycées, dans les collèges, puisqu'on a tout un pan de l'association d'action qui consiste à aller dans les collèges, dans les lycées, à parler. Donc le principe, c'est qu'on va à 2 victimes. Donc voilà, toujours 2 victimes. Alors ce sont des interventions qui sont extrêmement préparées en amont, puisqu'il y a des professeurs qui vont voir les classes, qui échangent avec elles. C'est tout un parcours en fait pédagogique avec les professeurs aussi du lycée ou du collège. Et donc le principe, c'est qu'on témoigne, donc on témoigne l'un après l'autre, et puis ensuite il y a un temps d'échange.
Et pour toi, ces témoignages, tu le fais parce que tu penses que c'est utile pour avoir un impact sur l'univers, ou tu le fais parce que ça te fait du bien à titre personnel?
Alors, je pense que les deux réponses sont possibles. Faire du bien, tout est relatif. Alors, on acquiert forcément une habitude, mais les premières fois notamment, et même les dernières, c'est quand même un moment d'une intensité très importante. On sort de là, on est vidé. Donc, c'est bien de raconter notre histoire, et en même temps, c'est pas simple, et c'est jamais simple. C'est d'autant moins simple que non seulement on raconte son histoire, mais avant ou après, l'idée c'est que c'est toujours trop chronologique. Donc moi je suis toujours quasiment passé en premier, mais on entend aussi l'histoire de l'autre, et l'autre qui peut être un père qui a perdu sa fille, l'autre qui peut être une épouse qui a perdu son mari, qui est parti au Bataclan et qui est jamais rentré, voilà. Donc il y a cette double intensité. Et après il y a l'intensité aussi des échanges avec les jeunes qui sont quasiment toujours très positif, mais voilà, on sort de là, on est vidé. Après, si on le fait, c'est vraiment le but. C'est un sujet que tu connais bien. C'est le but du souvenir, ce souvenir. C'est-à-dire voilà, aujourd'hui, on est quand même nous. Alors je dis nous puisque depuis, je suis devenu administrateur de la FVT. Donc voilà, je suis partie prenante de l'association vraiment, et on est vraiment dans ce but de ne pas oublier, de continuer à porter cette parole, et notamment la parole des victimes du terrorisme.
Est-ce que cette parole, tu la portes aussi auprès de tes deux garçons dont tu nous avais parlé?
Alors on en parle régulièrement. Là aussi, je suis oui, ils savent ce que je fais, mais typiquement, je parle très peu, notamment dans mon cercle. Alors je vais pas répondre totalement à la question, mais dans mon cercle d'amis. Alors évidemment, Florence, mon épouse, c'est très bien et voilà, on en parle beaucoup. Mais dans mon cercle d'amis, par exemple, je parle très très peu de ce que je fais. C'est étonnant. C'est pas un sujet non plus que j'ai forcément envie d'aborder comme ça facilement et de m'étendre sur ces sujets-là, bien que ça soit très marquant et que ça me soit arrivé d'avoir des témoignages et le soir d'aller dîner chez des amis et le décalage est fort. Ouais. Mais voilà, je vais pas naturellement me parler de ça. Et j'en profite, j'ai eu deux. Puisque le but c'est de parler de ces trois années, j'ai eu cette année en 2022 l'occasion ou l'honneur de témoigner au nom de la FVT à deux procès d'attentats terroristes.
Lesquels ?
Alors le premier, le procès en appel des attentats de janvier, où j'avais pas mis les pieds dans la salle du palais de justice pour le premier procès.
Voilà. Pourquoi t'avais pas voulu ?
On se trouve toujours des excuses. J'ai du mal à l'expliquer. Une fois que le procès s'est refermé, je me suis dit mais pourquoi t'y es pas allé ? Enfin, c'était.
Tu te sentais pas légitime ou t'avais peur
non,
de faire face ?
Non, je sais pas. J'ai pas d'explication rationnelle.
Ok.
Mais j'ai finalement refusé peut-être. Tu sais, le truc de ah bah oui mais c'est vrai que j'ai un boulot très prenant, ah bah oui mais j'ai une réunion, oui mais j'ai si, mais c'est pas vrai en fait, enfin voilà. Et quand le deuxième procès est arrivé, il allait se passer la même chose, sauf que donc dans les réunions du conseil d'administration, on s'est dit ok, bah là il faut qu'on témoigne dans les grands procès. Et donc naturellement on était deux, je dirais, à pouvoir témoigner. Michel Catalano, qui est l'imprimeur qui oui. Chez qui ont été les frères terroristes à la fin de leur parcours, et moi-même. Mais Michel, lui, il témoignait en son nom propre. Du coup, je me suis dit ok, j'y vais. Et c'est pas que j'avais forcément envie d'y aller, mais j'y suis allé, et après j'ai été très content d'y aller. Et du coup, j'ai répété l'exercice pour un deuxième attentat qui nous a beaucoup marqué. Qui est le procès de l'attentat du 14 juillet en fait à Nice, voilà. Où de la même façon, je suis allé porter la parole de la FVT puisque la FVT est partie civile dans ces différents procès.
Est-ce que tu t'es pas dit que pour ce procès en particulier, il était important d'y aller parce que c'est comme si ce procès, c'est comme si c'était l'attentat un fantôme. On en parle beaucoup moins que des autres.
On a effectivement eu cette réaction, on a eu cette impression. C'est pas une impression, c'est la réalité. Notamment, ce procès en fait est arrivé très rapidement après le procès V13, donc le procès du 13 novembre. Et effectivement, dès le premier jour, dès le premier jour. Donc le procès, il a été décidé pour des questions de sécurité, je crois essentiellement, de tenir ce procès à Paris, au palais de justice à Paris, alors qu'effectivement il aurait pu se tenir à Nice. À Nice, il y avait une salle dédiée dans laquelle il y avait une retransmission, et tout de suite il y a eu très peu de monde en fait. Les gens, même les victimes ont eu du mal à se mobiliser pour ce procès. Venir évidemment pour les familles à Paris, c'était des coûts importants, c'était difficile, c'est des procès qui sont très longs. Et effectivement, ça a été accompagné malheureusement d'une très grande, ça a été très peu suivi dans les médias. Il y a eu quelques épisodes qui ont été racontés, évidemment, quand les politiques sont venus parler. Alors là, il y avait beaucoup de monde dans la salle, mais à part ça, effectivement, ça a été un procès un peu fantôme. Et alors, c'est une goutte d'eau, mais j'ai attaché beaucoup d'importance chaque semaine à rappeler que ce procès était là et à penser aux victimes, notamment sur Twitter, où j'ai une toute petite audience, mais voilà. Et essayer avec d'autres de donner un peu de visibilité à ce procès. Et c'était effectivement important.
À titre personnel, est-ce que ton quotidien est impacté par la peur des attentats ?
Alors, je suis dans la même position que celle dans laquelle j'étais au moment où on s'est parlé la première fois. À l'époque, j'avais répondu non, je refuse effectivement d'être dans cette peur et je n'y suis pas. Je sais que je fréquente, alors au travers de la FVT, je fréquente un certain nombre de victimes d'attentats terroristes, notamment des gens qui étaient dans la salle du Bataclan et qui ont ce réflexe effectivement quand ils rentrent dans une salle de regarder les issues de secours, de regarder tout ça. Moi non, je dois avoir un petit côté naïf, je sais pas, mais je refuse d'avoir cet impact-là sur ma vie. Et je vais au Parc des Princes avec un de mes fils et j'étais au Grand Rex pour la sortie d'Oppenheimer il y a trois jours. Enfin voilà. Je vais dans les lieux de foule et j'y vais sans problème particulier.
Tu nous avais un tout petit peu parlé avec pudeur, et une pudeur qui m'allait très bien, de ta relation avec ton frère à la suite de l'attentat et du rôle que tu avais auprès de lui. Est-ce que ce positionnement a un peu évolué avec le temps ?
Oui, il a évolué puisque mon frère est revenu à une vie... Alors que je vais qualifier de normal, même si elle l'est pas tout à fait, normal comme quelqu'un qui a pris une balle dans la mâchoire et qui a eu une partie de la mâchoire arrachée. Donc, pas normal par rapport à chacun d'entre nous, dans le sens où évidemment, il continue à fréquenter régulièrement les hôpitaux et le monde hospitalier. Mais normal dans un mode de vie, effectivement, du coup. Alors, on n'est pas revenu à la relation qu'on avait avant l'attentat. Il en reste évidemment quelque chose. Il y a un fil qui est tendu et qui, je crois, se cassera jamais. Mais voilà, on a repris chacun nos vies avec nos amis, avec voilà.
Et la petite bande qui s'était créée autour de lui et dont tu étais un des animateurs, elle subsiste ou vous avez préféré la laisser se distendre un peu?
C'est pas qu'on a préféré. La vie a fait qu'effectivement, elle s'est distendue peu à peu. Voilà, on a peu de liens aujourd'hui et quand on en a, on est content d'en avoir, mais on en a très peu. Mais je crois que on a tous des vies très remplies et que nos emplois du temps, font que chacun vit sa vie de son côté.
Et c'est peut-être aussi l'illustration que la vie a repris son cours.
Exactement. Ah bah c'est clairement l'illustration que la vie a repris son cours. Et je l'avais dit là aussi lors du premier podcast, je pense. C'était totalement inconcevable. C'est-à-dire que il y a eu pendant quelques semaines, quelques mois, on était tellement proches. On était un noyau. On était le fameux cocon. On pouvait pas à l'époque imaginer que la vie serait ce qu'elle serait après. C'est-à-dire que ces liens se distendraient, qu'on aurait plus, finalement, on a plus besoin des uns des autres pour vivre. Alors que je pense qu'à un moment, on avait besoin des uns des autres. Comme d'ailleurs, on pense que quand il survient un événement comme ça, terrible, on relativise beaucoup, on se dit que les petits tracas de la vie sont accessoires. Et puis, trois ans après, quand j'ai une panne de bagnole ou que je crève, machin, je suis comme tout le monde. Hein, je trouve ça insupportable. Alors que je pense que quelques jours après l'attentat, j'aurais trouvé ça totalement accessoire.
Ouais. Alors, tu parles de ce dont tu as besoin pour vivre. Aujourd'hui, tu as besoin de quoi pour vivre heureux?
Oh là, j'ai besoin de je vais revenir sur quelque chose qui m'est important. J'ai besoin de ma famille, voilà. J'ai besoin de mes copains. J'ai besoin de sortir. J'ai besoin de vivre. J'ai besoin de lire. Alors ça, c'est très nouveau parce que j'ai pendant très longtemps pas lu Et en fait, je ne sais pas si c'est le lambeau qui a été vraiment déclencheur. Il y a eu le lambeau, il y a eu cette période quand même particulière juste après qui a été le Covid où effectivement on s'est retrouvé à la maison et voilà. Et je me suis mis à beaucoup lire. Donc voilà, la lecture a pris une place importante. On essaye aussi d'aller au théâtre. Voilà, la culture a pris une place importante aussi. Enfin, elle l'avait déjà sur les sorties, mais voilà, j'ai besoin de tout ça, et puis j'ai besoin surtout de mes deux garçons qui grandissent, et dont, qui un de ces jours, le premier surtout, va partir, et voilà, et on commence à se dire que voilà, que ça va arriver, ça sera une autre étape qui arrivera.
T'as besoin d'amour, quoi.
Ouais, on a tous besoin d'amour, non?
Merci.